Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, que Dieu nous bénisse à travers l'ouverture de sa parole ce matin, et nous allons lire un texte, si vous voulez bien suivre avec moi. Nous allons entreprendre la lecture du chapitre 3 de Philippiens. Alors, à partir du verset 4, nous allons lire ce passage. Alors, épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 3. Voici ce que je lis, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse à travers cette méditation que nous allons maintenant développer. Nous allons y apporter quelques pensées. Vous ne vous souvenez pas du jour où vous avez commencé à marcher? Ah, ça remonte à quelques années pour certains. Peut-être nos parents pourraient nous en parler, mais là, pour nous, c'est un peu juste quand même. Alors, vous avez remarqué, il y a un verbe qui ressort de notre texte, c'est le verbe courir. Marcher, mais avec cette intensité, verbe qui aussi exprime une dimension supérieure à la marche, c'est-à-dire courir. Alors, courir, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça peut, en effet, représenter? Il faut d'abord savoir où nous courons, comment nous courons et pourquoi nous courons. Ça paraît très simple comme ça, mais il y a bien des gens qui ne savent pas où ils courent, où ils marchent. Il y a des gens aussi qui ne savent pas pourquoi. Et puis, il y en a d'autres, certainement, qui ne savent pas eh bien comment le faire. Courir, le verbe courir évoque au moins trois choses que j'aimerais partager avec vous. D'abord, la vitesse. C'est vrai, c'est une amplification de la marche pour atteindre un but, naturellement, plus rapidement. C'est peut-être aussi la compétition au regard des autres. Il y a des gens qui sont autour de moi, alors je vais les doubler et je cours à ce moment-là. Ou alors ça peut représenter la fuite, parce que j'ai peur. Il y a des choses qui peut-être m'impressionnent dans la vie et qui font que bien, je me mets à courir pour échapper à. Qu'est-ce qui faisait courir Paul, le croyant? Parce qu'il a quand même écrit des choses sur la question, et ce serait intéressant de savoir pourquoi il a écrit cela. Et y a-t-il pour nous des raisons de courir? Et qu'est-ce qui peut nous faire courir dans la vie? Alors Paul répond de cette manière, il dit, il explique un tout petit peu, on verra un peu plus loin, un peu plus tard, mais il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Alors avait-il besoin de rattraper le temps pour finalement, atteindre ce prix? Paul, en tous les cas, souligne, il parle d'un prix à remporter. Il était conscient que la vie, que sa vie, a un certain prix. C'est vrai que la vie est quelque chose de précieux pour eux. C'est un don de Dieu. Pour nous, en tous les cas, c'est un don de Dieu. C'est une valeur, je dirais même estimable, que Dieu nous a confiée, un trésor. C'est une destination qui coûte, en ce qui concerne Paul, puisque lui, il parle d'un prix qui est devant lui, et c'est vrai que cela a représenté quelque chose de très fort dans sa vie. Et pour l'atteindre, il y avait nécessairement un prix à payer. Quelqu'un qui marche paisiblement, c'est une chose. Quelqu'un qui tend tous ses muscles, qui tend ses efforts pour atteindre un but, quitte à arriver complètement essoufflé, eh bien, il y a un prix à payer. C'est-à-dire, c'est le prix de l'effort, de toute manière. De la vie, on pourrait le dire comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi et la vivre n'importe comment, ça on le sait. C'est ce qui fait finalement l'objet de nos rassemblements où nous venons puiser dans la parole de Dieu, eh bien, peut-être le où, le comment et le pourquoi nous marchons et nous courons. Alors, je dirais que dès qu'il y a une notion de Dieu dans la vie d'un homme, eh bien, cette vie prend tout de suite une autre signification. Nous marchions et nous courions avant de connaître le Seigneur. Maintenant, nous marchons et nous courons, mais dans une autre destination, parce que nous connaissons Dieu. Les gens courent un peu de tous les côtés, ils courent et ils se perdent dans toutes sortes de choses. Mais nous, maintenant, il y a une direction qui a été prise. Parce que la notion de Dieu, la vie de Dieu est là, et nous la connaissons. Et cette vie-là même, notre vie, prend de la valeur, parce que nous connaissons le Seigneur. Et comme si c'était un regard qui était posé sur nous, et qui fait qu'il nous entend, que nous nous entendons dire, eh bien, que par le fait que nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous regarde marcher, et nous regarde maintenant courir. Et Paul ajoutera ceci, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Il a parlé de prix, maintenant il parle de perfection. En toute humilité, parce que moi je crois Paul capable de cela, de l'humilité, d'une grande humilité spirituelle, l'apôtre sait très bien qu'il est encore loin du but, en écrivant ses paroles dans Philippiens, un objectif qu'il appelle la perfection. Et je crois que la notion doit être forte au fond du cœur de chacun d'entre nous. Il doit y avoir cette notion de perfection et de ce qu'il y a encore, finalement, devant nous à atteindre, comme cela a été aussi devant l'apôtre Paul. Mieux peut-être qu'un autre, par sa foi, par sa consécration et par son courage, Paul aurait pu probablement prétendre toucher la ligne d'arrivée de cette course à la vie, parce que c'était pas n'importe qui, Paul, c'était un géant de la vie spirituelle de la foi. Et il ne s'illusionne pas, et je crois que nous avons besoin certainement d'emprunter sa réflexion, parce que nous ne sommes pas encore dans la perfection. Nous sommes loin encore d'avoir atteint le but, et lui-même le disait, et je sais pourquoi il disait en toute simplicité et humilité, eh bien, je n'ai pas encore atteint, mais néanmoins, je vais. Dans cette perspective, dont le centre est Jésus, et c'est ce que Paul explique au verset 10, parce que le but de ce prix, la perfection, c'est connaître Christ. Et ça, je crois que c'est aussi, finalement, ce qui resplendit devant nos yeux spirituels, c'est de connaître Christ. Nous avons été connus de Christ, mais Dieu veut se révéler à travers Jésus-Christ, et ça, c'était véritablement le but, de connaître encore mieux la personne de Christ. Alors, pour cela, Paul court. Ouais. Il court, mais il court pour tâcher de saisir. Je reprends les mots, hein, les uns après les autres, pour essayer de bien mettre en valeur ce qu'il veut dire dans sa pensée. Et en dépit des obstacles multiples, nous voyons l'apôtre courir avec persévérance, car il croit fermement à ce qu'il fait. Et je pense que ça, c'est aussi une interpellation pour chacun d'entre nous, de croire fermement à notre vocation, de croire fermement à ce que nous faisons dans l'instant où nous le faisons. Il y a bien des gens qui vivent comme des automates, peut-être même parfois des chrétiens, ce qui est certainement regrettable. Mais Paul était un homme qui pénétrait lui-même le sens de la vie du présent. Et il pouvait dire, eh bien, je tâche de le saisir. Comme quelqu'un qui attrape, je ne sais pas moi, excusez-moi la pensée, mais quelqu'un qui attrape un objet comme ça au vol, hein, il fait tous ses efforts pour essayer de saisir là cette destination. Et pourtant, il a rencontré pas mal de difficultés. Et c'est la raison d'être de sa foi, sa motivation. Et c'est ce qui lui permet de soutenir son effort pour aller jusqu'au bout dont le prix de la victoire reste son unique préoccupation, nous écrit-il. Et dans cette course à la vie, parce que c'est ça, et je dis que ce n'est pas seulement une course à la vie terrestre, mais c'est une course à la vie céleste, à la vie spirituelle, à la vie éternelle, Paul sait au moins deux choses, la longueur de la route, et puis également il est conscient de la difficulté pour y arriver. Mais je crois que cela recoupe tout à fait les enseignements que Jésus nous donne lorsqu'il nous parle du chemin étroit, du chemin périlleux, de toutes ces encouragements que nous trouvons à travers des paraboles ou autres enseignements que Jésus nous a laissés ou a laissés à ses disciples, pour nous montrer qu'il y a la longueur devant nous, et puis il y a aussi probablement les difficultés pour atteindre ce but. Alors, Paul sait qu'il ne court pas vainement, et ça c'est important, que parfois nous nous posons des questions en disant, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Où suis-je? Quand on fait quelquefois des bilans de notre vie, de notre foi, on se dit, mais où est-ce que j'en suis? Mais Paul est un homme qui a une pleine conviction dans son cœur, alors il sait qu'il ne court pas en vain, et il sait aussi qu'il ne court pas vainement, mais qu'il ne court pas solitaire, puisqu'il l'exprime dans cette parole, il dit, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc il n'est pas tout seul à courir, puisqu'il y a quelqu'un qui l'a saisi, pour le porter, pour le conduire, pour lui renouveler l'énergie dont il a besoin, l'énergie physique, l'énergie morale, l'énergie psychologique et l'énergie spirituelle avant tout. Et ça, c'est en disant cela, il pense en écrivant cela certainement à son expérience sur le chemin de Damas, parce que là aussi il courait peut-être dans la mauvaise direction, mais il a été saisi. Son appel au service que nous trouvons par exemple dans Actes chapitre 26, quand il expliquera devant le roi Agrippa, me semble-t-il, que finalement, eh bien, Dieu lui a parlé, lui a dit, voilà, je t'envoie pour ouvrir les yeux des hommes, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, que tu les fasses passer de la puissance de Dieu, que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu, pardon, et que tu leur apportes, eh bien, le pardon des péchés en croyant en mon nom. Et ça, Paul, eh bien, là, est tout à fait conscient qu'un jour dans sa vie, eh bien, il a été saisi, et maintenant il court plus de la même manière. Et ça, c'est la part de Dieu de nous saisir, dans notre état de perdition, comme Paul, pour nous sauver, mais il nous revient à nous-mêmes de nous saisir de ce que Dieu offre. Et ce que Dieu offre, eh bien, c'est le salut, c'est la vie éternelle, et ça, c'est notre part. Dieu a fait sa part, et nous avons notre part. Et nous ne marchons pas tout seuls, nous ne marchons pas vainement, mais parce que celui qui nous a appelés, celui qui nous a saisis, est à nos côtés. Et ça, c'est à rappeler certainement. Nous saisissons la grâce de Dieu dont nous parlons par deux actes bien concrets. D'abord, une disposition morale que l'on appelle la foi, c'est-à-dire croire. Et puis, la deuxième disposition qui nous permet finalement d'avancer, c'est un engagement de notre volonté, c'est vouloir. Croire d'abord et vouloir ensuite. Parce que nous pouvons croire et puis peut-être à un moment donné nous arrêter si nous ne voulons plus mettre en action notre volonté de continuer de croire. Et Paul le souligne. Et il l'écrira, par exemple, à son ami Timothée, et il dira en substance ces mots, « Cette exhortation combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. » Vous voyez, hein, il a été saisi par Dieu, lui-même a saisi la grâce qui lui était donnée, et il exhorte son ami à saisir finalement la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, dira un autre texte du Nouveau Testament, aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emporté loin d'elle. » Donc, la vie spirituelle n'est pas une vie statique, la vie chrétienne, la vie de la foi n'est pas quelque chose de statique en disant maintenant je suis sauvé, je peux chanter des cantiques, et puis tranquille, on attend le reste, la suite. Non, c'est une vie en mouvement. Alors, chacun peut être à son rythme, hein. Ça je veux bien le croire. Il y a des bébés dans la foi, il y a des adolescents dans la foi, il y a des hommes et des femmes qui sont faits, il y a des gens qui sont là, mûrs, hein, comme des gerbes en son temps. Mais, en tous les cas, on ne peut pas se permettre dans la vie spirituelle de rester et de faire du surplace. Il y a toujours un mouvement. Et il nous est simplement rappelé que si nous voulons garder ces choses, eh bien, nous allons les garder, parce que si nous ne les gardons pas, si nous n'avançons pas, alors à ce moment-là, nous risquons d'être emportés loin d'elles. Ou le livre des Hébreux ajoute ceci, « Notre seul refuge a été de saisir. » Vous voyez le mot « saisir » qui revient à chaque fois. « Notre seul refuge a été de saisir l'espérance » qui nous a été proposé, à nous de répondre, à nous de persévérer dans cette proposition permanente et de dire, Seigneur, j'en veux et j'en veux encore. Et pour cela, je marche. Et pour cela, je cours. Parce que vous comprenez le sens du mot saisir, ça veut dire, du verbe saisir, ça veut dire s'emparer, s'approprier, et garder. Alors Paul d'ajouter à ceci, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je cours. Un grand homme comme Paul nous dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Il est sur la voie, il est sur la route, mais c'est pas qu'il y a un doute dans son cœur. Mais il sait que de toute façon, il y a un but, il y a un objectif encore à atteindre. Tant que le but final n'est pas atteint, qui peut dire, ici et ailleurs, avoir réussi? Peut-être que nous avons beaucoup d'expérience à notre compte, mais nous pouvons, à l'instar de Paul, dire que finalement, eh bien, personne ne peut dire que j'ai réussi. Il n'y en a qu'un qui a pu dire, non pas réussi, mais j'ai achevé la course. Vous connaissez, hein, c'est Jésus. C'est-à-dire garder la foi jusqu'au bout. Et que de tentations, que de chutes possibles, de rencontres douloureuses avec le doute, avec parfois toutes sortes de choses qui nous amènent à être déstabilisés avec notre ennemi, l'adversaire numéro un du chrétien, c'est-à-dire, eh bien, le diable. Et Paul, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, puisqu'il parle de saisir la vie éternelle, d'atteindre le but, la perfection, de remporter le prix, il écrira ces paroles merveilleuses, parce que je trouve que ce sont des paroles formidables d'un homme qui arrive au terme de sa vie. Paul vieillard dira ceci, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, c'est formidable ça, hein. J'ai achevé la course. Il devait être pas loin certainement de quitter ce monde, hein, pour avoir dit ça, hein. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de gloire m'est réservée. Alors là, il est à quelques centimètres de toucher le but, si vous me permettez, d'une évaluation, hein, par la distance. Ça, c'est quelque chose de... Je trouve que ce sont des paroles magnifiques que nous avons là à entendre et à lire dans notre Bible, d'un homme qui a atteint finalement, et de dire, mais j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire pour nous. Fort heureusement, il nous reste du temps à vivre, hein, j'espère. Hein? Mais de dire, eh bien Seigneur, merci, et c'est pour ça que nous devrions éclater en louange à chaque fois que nous nous réunissons, de dire, Seigneur, j'ai parcouru peut-être là, depuis ma conversion, un certain chemin, mais merci de m'avoir gardé, d'avoir gardé la foi. Alors peut-être qu'il reste encore, et je le souhaite le plus longtemps possible, que vous viviez jusqu'à 120 ans, c'est une perspective aussi, mais de dire, eh bien, véritablement, Seigneur, garde-moi, et garde-moi de tenir le coup et de garder la foi jusqu'au bout. Dans une course, il n'y a qu'une chose à faire. C'est pas de discuter avec les voisins. C'est pas de regarder le paysage. C'est pas d'essayer de faire ceci et cela. Dans une course, il n'y a qu'une chose à faire, c'est courir. Le mot veut bien le dire. C'est de courir, sans autre chose. Et Paul le dit d'ailleurs, je fais une chose. Je fais une chose, une, et non pas 36, comme quelquefois nous, en tant qu'hommes ou en tant qu'enfants de Dieu, nous touchons à tout. Nous papillonnons, nous butinons un peu de tous les côtés, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous perdons finalement le sens et le but de ce à quoi nous avons été appelés. Non pas 36 choses, parce que nous sommes dans un monde où il y en a des choses à faire. Si nous ne savons pas à quoi faire, eh bien, il y a certainement de quoi s'occuper. Parce que la foi ne se disperse pas. Et c'est vrai que lorsque nous regardons, parfois nous pouvons faire le bilan de notre vie en disant, mais que de perte de temps. Je fais une chose, nous dit Paul. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire une chose. Prioritairement. Quelqu'un qui ne se lasse pas. Quelqu'un qui ne se fatigue pas. Quelqu'un qui ne s'arrête pas. Et le regard fixé toujours en avant. Et vous savez qu'il y en a beaucoup qui commencent. Mais tout le monde qui a commencé ne finit pas. Et ça, c'est bien triste. Parce que aujourd'hui, je le dis ici comme on a pu le dire ailleurs, je peux vous dire qu'il y aura au moins peut-être 3 ou 4 églises évangéliques à Saint-Nazaire. Hein. Si tous ceux qui avaient commencé étaient encore là, mais il y en a beaucoup qui se sont arrêtés en chemin, hein. Bien sûr. Et c'est pas le fait de la ville, c'est pas le fait de la région, mais c'est le fait de partout. Alors, nombreux sont ceux qui commencent bien, avec de belles professions de foi et qui n'arrivent jamais, qui arrivent mal, qui s'arrêtent en route à cause principalement de ce que Paul avait su, lui, certainement laisser en arrière, et il le dit d'une manière très claire, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, en ajoutant « je cours ». En ajoutant ceci, « je cours ». Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de marcher, Il y a plusieurs façons de marcher. Alors, je vais pas vous chanter la chanson, hein. Mais, il y en a qui marchent en crabe.
Oui, comme ça.
Il y en a qui marchent en diagonale. Vous avez remarqué, les chats, quand ils traversent la route, ils traversent jamais en ligne droite. Ils traversent toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mortalité. Ah oui, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui peut nous parler. Parce que nous marchons pas forcément toujours vers le but. Et nous partons en diagonale. Et je crois que Paul avait su une chose, il avait appris une chose dans sa vie, c'est qu'il avait oublié ce qui est en arrière. Et nous avons, frères et sœurs, je sais qu'il y a beaucoup de chagrin dans les cœurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, une somme de peine et de souffrance parmi les enfants de Dieu. Mais Paul nous le répète ce matin, oubliant ce qui est en arrière, et le Seigneur est là pour vous guérir. Est là pour nous guérir de toutes ces blessures du passé. C'est le livre du prophète Ésaïe qui nous dit, ou c'est Dieu qui dit par la bouche du prophète, hein, j'oublierai, vous oublierez vos blessures passées. Eh oui. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas avancer décemment quand on regarde derrière soi. À moins que vous ayez un rétroviseur. Mais c'est pas prudent de conduire avec un rétroviseur continuellement. Ça peut rendre service quand même un petit coup d'œil pour savoir s'il n'y a pas à droite ou à gauche. Mais je crois que nous avons besoin d'avoir les yeux fixés dans un but bien particulier. Et nous avons à apprendre et à nous laisser guérir par le Saint-Esprit et par sa parole. Nous avons besoin de nous laisser faire entre les mains de Dieu pour dire comme Paul, j'ai oublié ce qui est en arrière. Alors quand il s'agit d'oublier, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus complètement amnésiques, que Dieu aura enlevé une partie de notre cerveau dans une partie de nos cellules de mémoire. Non, il veut simplement nous dire que Dieu a guéri, nous guérit de nos souffrances du passé. Nous en souvenons, mais elles ne nous font plus mal. C'est ça la question. Et il y a certainement parmi le peuple de Dieu des frères et des sœurs qui sont en guérison. Mais Paul nous le rappelle et Dieu nous le rappelle ce matin. Paul le savait et il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alors je cours, je ne cours pas pour fuir mon passé, mais je cours pour atteindre le but. Et dans ce but vers lequel je vais, c'est ce but même qui me guérit, parce que j'ai un objectif. J'ai là quelque chose devant moi. Et ce quelque chose devant moi est si beau, si grand, que finalement, eh bien, il a cette incidence sur ma vie que, eh bien, mon passé, c'est mon passé, c'est fini. Et Dieu fait son œuvre. Vous savez, je ne vous apprends rien parce que nous avons tous une histoire. Le passé est souvent un fardeau, invalidant qui empêche franchement d'aller de l'avant. Trop souvent, nous trimballons, excusez-moi l'expression, mais bon, nos vieilles casseroles derrière nous. Des choses que nous ressassons, des choses que nous repassons, le mal qu'on nous a fait. Et puis, on oublie peut-être plus facilement le mal qu'on a fait aussi, aux autres. Et puis, toutes sortes de choses comme ça. Et on comprend que quelquefois l'Église est latente, l'Église est fatiguée, elle est lourde, parce qu'il y a trop de choses. Et pourtant, le Seigneur est là ce matin. Moi, je crois, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais le Seigneur est là. Il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous dire, mais regarde devant, il y a quelque chose de formidable. Et c'est en regardant devant que tu vas guérir de ce qui s'est passé dans ton histoire. Alors, tout ce qui peut nous empêcher, toutes ces culpabilités qui n'ont pas été réglées, ces souvenirs négatifs, nous en avons tous. Nostalgie du bon vieux temps. Les blessures qui n'ont jamais été refermées. Les problèmes non résolus, où nous les laissons toujours sous le coude en disant plus tard, on verra bien, ça se solutionnera bien un jour. Et finalement, on ne trouve jamais de solution. Les fautes qui n'ont jamais été pardonnées, parce que nous refusons de pardonner. Nous gardons des choses au fond de nous-mêmes et vous croyez qu'on ne peut avancer avec ça, c'est pas possible. Il faut échapper à tout cela. Et Dieu veut nous amener finalement à sortir de ce carcan. Jusqu'au point de ne plus pouvoir avancer et parce que nous sommes entravés par le poids invalidant finalement et bien de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Imaginons un coureur, un athlète en compétition qui est sur le stade et puis qui se promène avec ses valises, avec son sac à dos et puis des Rangers par exemple. Je peux vous dire qu'il va courir vite. Hein. Il va se faire doubler très très rapidement. Ben nous sommes un peu sur la piste, un petit peu comme ça. comprenez, on veut rien lâcher. On se dit, ben oui, c'est comme ça, et puis on marche. Paul dit, je cours. Mais Paul courait parce que il avait quelque chose au fond de son cœur. Il avait bien compris comment il fallait courir. Mais nous sommes là avec nos valises de droite et de gauche. Nous avons le sac à dos. Nous avons les poches pleines de certaines choses qui finalement, eh bien, on ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas avancer. Et pourtant, la première invitation que vous avez entendue, que j'ai entendue de l'Évangile, c'était une invitation à nous décharger. Parce que les paroles qui sont souvent données dans l'évangélisation, c'est les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous toutes qui êtes chargées et fatiguées, et je vous donnerai du repos. » C'est certainement, tout le monde entend cela. Et ça, c'est la première invitation, mais qu'avons-nous fait de tout cela ? Ensuite, seulement, on peut aisément se porter vers ce qui est en avant, à partir du moment où nous avons déchargé nos fardeaux. Et ça, c'est un acte que nous avons besoin de faire et de refaire. Nous l'avons fait au moment de notre conversion, et c'est ce qui nous a amené à découvrir combien le Seigneur est bon et merveilleux. Et puis, avec le fil du temps, eh bien, dans notre vie chrétienne, nous avons encore chargé notre vie, sans nous apercevoir. C'est comme ceux qui sont propriétaires d'une maison, une grande maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Quand on arrive, qu'on vient de déménager, bon, on a juste ce qu'il faut. Puis après, on entasse. Alors, il y en a dans le grenier, il y en a dans la cave, il y en a dans les couloirs, il y en a partout. Puis quand il faut déménager à nouveau, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est terrible, hein ? Vous voyez ? Et c'est un petit peu ça, l'image de notre vie. Hein ? Nous prenons tellement de choses et nous nous apercevons qu'à un moment donné, c'est trop lourd. Vivre le présent, c'est préparer l'avenir. Ne vivez pas dans le passé, frères et sœurs. Paul dit, je cours et je regarde devant. Parce que si vous voulez préparer l'avenir, votre présent est mauvais parce que vous êtes invalidé par votre passé. Vous n'avez pas de perspective de l'avenir parce que votre présent est mauvais. Parce que lui-même est complètement handicapé et englué dans votre histoire. C'est comme ça. Et vous savez, ça s'appelle ça, frères et sœurs, la liberté en Jésus-Christ. Ouais. La liberté en Jésus-Christ, c'est une chose excellente et merveilleuse. Je suis libre. Libre de nos chaînes, n'est-ce pas ? Hein, on l'a chanté tout à l'heure, je vous ai écouté. Hein, libre de nos chaînes, ce sont des beaux cantiques. Mais nous avons besoin de rentrer dans une dimension de liberté, de libération, où nous pouvons dire, c'est bon, c'est merveilleux d'appartenir à Jésus-Christ. Trop de gens sont tristes et ne plus suivre. Parce que l'aventure de la vie passe par l'aventure de la foi. Et la foi, c'est ce qui nous donne de respirer. C'est cette confiance en Dieu où je me libère, où je m'abandonne entre les mains de Dieu parce que mes affaires, je les ai remis entre les mains de celui qui peut tout et qui est capable de tout. Alors à ce moment-là, je n'ai plus qu'à me préoccuper finalement de sa gloire, de son service, mais je me suis défait de tant d'autres choses. Je dis bien que l'aventure de la vie passe nécessairement par l'aventure de la foi et nous sommes tous appelés à vivre une nouvelle aventure dans la foi. Ce matin, nous avons prié avec mon épouse, on a dit « Seigneur, envoie un esprit de foi sur cette église. » Parce que c'est ça ce que nous avons besoin. Un esprit de foi qui nous dynamise, qui nous fasse du bien, qui vienne comme un souffle, un rafraîchissement. Et vous en avez besoin. Moi aussi j'en ai besoin. Nous en avons tous besoin. L'aventure, une nouvelle aventure avec le Seigneur, un rafraîchissement. Voilà l'expérience de Paul. « Je cours vers. » Le monde sans Dieu court lui aussi. Mais comment court-il et dans quelle destination ? Si nous nous souvenons un peu de ce que nous étions auparavant, peut-être que nous pouvons répondre à cette question. Quant à courir, essayons de savoir pourquoi nous courons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Une des premières choses dont la Bible nous convainc, c'est de la vanité de l'existence sans Dieu. Ça, c'est une chose que nous comprenons au moment où nous découvrons le Seigneur, que sans Dieu, nous sommes perdus. Que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais des choses vaines, des choses qui n'ont pas de suite, qui n'auront pas de durée, qui n'auront pas de perspective. L'apôtre Pierre nous le rappelle quand il nous compare, hein, enfin c'est Dieu qui l'inspire, à une fleur qui est resplendissante le matin et qui finalement va se faner, c'est comme l'herbe, tout passe. Ce que l'homme doit apprendre et réaliser, c'est qu'il est un être éphémère. Oui. Et que son passage, notre passage sur terre, est comme une course à peine commencée, qu'elle est déjà finie. Je n'en dirai pas plus, parce que quand on arrive déjà à la moitié de la vie, on dit ça passe vite. Et puis je pense que ceux qui sont nos aînés parmi nous disent « C'est passé, j'ai pas vu passer la vie. » Hein, certainement qu'ils pourraient nous donner eh bien leur appréciation. On dit souvent que les années passent, que finalement les jours s'enfuient, on parle de la course du soleil, de la vitesse du temps, que l'histoire se précipite ou s'accélère. Ça, c'est le langage des hommes, notre vocabulaire. Finalement, c'est nous qui passons, et la fuite, c'est nous. Parce que Dieu a mis les choses d'une manière immuable, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est nous qui passons. Voilà l'impression que nous avons, que nous laisse l'existence lorsque l'homme n'a plus de point de repère spirituel et de perspective d'éternité. À partir du moment où nous avons un but, que nous voyons un point, une lueur, que nous voyons le but du tunnel, c'est-à-dire le ciel pour nous, alors à ce moment-là, nous avons une motivation, nous avons quelque chose. Mais sans cela, qu'est-ce que vous voulez ? À quoi ressemble la vie ? Et c'est peut-être justement tout le drame de ce monde qui est enfermé et qui a rejeté Dieu. Donc, il n'a pas de repère spirituel, de perspective. Alors l'homme est malheureux du si peu de temps dont il dispose, et pourtant, il fait tout pour aller encore plus vite. Vous avez remarqué ? Alors il se va où ? Et pourquoi court-il ? S'il n'a pas d'éternité pour lui, son temps donc logiquement lui est compté, alors on assiste à un spectacle de folie et de frénésie comme le monde nous le décrit aujourd'hui. Les gens veulent aller de plus en plus vite, mais ils veulent aller de plus en plus vite pourquoi ? Pour mourir. Et puisqu'il n'y a plus rien pour eux. Alors faut pas être pressé, hein. C'est pas la peine. Nous, c'est différent, naturellement. Regardez le monde comment il est actuellement, par exemple, dans l'espace. Hein, les déplacements dans l'air, sur la terre ou sur la mer, hein, on construit des choses qui ont des capacités d'accélérer finalement le temps. La manière de vivre des hommes aujourd'hui. Hein, on fait tout à 100 à l'heure, bien que ce soit limité, sur la route en tous les cas. Le rythme de la musique est aussi entraînant. Enfin, entraînant, moi, ça m'énerve. Mais, je veux dire, on peut pas aller quelque part sans entendre des choses qui sont là. Hein, il paraît que c'est commercial, il y a du marketing derrière. Enfin, bon, moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. Hein, on est dans le siècle de la cadence. Hein, on a un langage tout à fait spécifique pour décrire tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que le monde court éperdument ? Le monde sans Dieu. C'est ça la question. Alors j'aimerais donner quelques réflexions relatives au rythme de la vie. Dans le livre de l'Ecclésiaste, vous connaissez, il nous est dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour ceci, un temps pour cela, ceci, cela, etc., etc., vous connaissez. Allez vite, ouais, allez de plus en plus vite. C'est pourquoi, finalement, on finit par passer à côté de l'essentiel. Que les gens qui n'ont pas d'espérance vivent cela, on peut le comprendre. Mais que nous, chrétiens, nous soyons pris dans cette frénésie d'accélération et en passant à côté des vraies valeurs et de l'essentiel, c'est grave et c'est dommage. C'est un euphémisme, hein, parce que j'aurais pu dire autre chose. Le mot dommage n'est certainement pas à sa place. C'est dramatique. Pour bien vivre, pour bien penser, pour bien faire, il faut prendre son temps, frères et sœurs. Et c'est à nous de savoir gérer notre temps. De savoir faire les choses comme il convient. Nous sommes et nous vivons dans une société qui est obsédée à réduire le temps. Le vocabulaire d'aujourd'hui, je cite quelques mots simplement, on parle de flux tendu en entreprise, on parle de zéro d'attente, hein. Quoi qu'on nous dit que les avions et les trains sont toujours de plus en plus en retard. Hein. Quoi qu'il en soit, hein. Alors ça c'est bizarre, mais c'est comme ça. On parle de colis express, colissimo et autre chose, je ne fais pas de publicité. On parle de tourner après un régime. Les entreprises, les ouvriers travaillent, ils font les 3-8, hein, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Ah, s'il y avait 25 heures, mais il n'y en a que 24. Le problème est là. Vous savez, on pourrait, quelquefois, et en dehors peut-être de la Bible, on pourrait peut-être relire « Le lièvre et la tortue » de Jean de La Fontaine. Parce que ça pourrait peut-être servir, même à nous, chrétiens, de voir comment nous vivons, au rythme auquel nous vivons, mais nous courons vers quoi ? Et nous allons dans quel but ? Où il y a quelquefois, en fin de compte, qu'une insatisfaction profonde, même au tréfonds du cœur des enfants de Dieu. On fait de la lenteur dans notre société un péché, une tare. Ouais. C'est une sorte, diront certains, de pathologie d'attardé mental. Parce que on ne va pas au même rythme que les autres. Et ceux qui ne suivent pas la cadence sont éliminés sans pitié. Ça, c'est le monde du travail, mais c'est le monde dans bien d'autres choses. parce qu'on n'arrive pas à suivre. Et pourtant, dans la vie et dans le monde, il y a des gens qui sont peut-être plus vigoureux, plus vaillants, qui ont plus d'énergie, mais il y en a d'autres, il faut bien les respecter aussi. Tout le monde n'a pas le même métabolisme. Alors, c'est un monde sans pitié, la précipitation fut la vie. Il nous est dit que celui qui agit avec précipitation court à sa ruine. Alors ça, peut-être que nous aurions besoin de nous souvenir de ce que nous dit le livre des Proverbes au chapitre 21. Oui, parce que si nous faisons les choses dans la précipitation, dans les décisions que nous prenons, et ceci et cela, alors à ce moment-là, eh bien nous avons le résultat. La parole de Dieu nous dit que nous courons à notre ruine, et le monde court à sa ruine, et que les enfants de Dieu prennent bien compte, tiennent en compte ceci. La civilisation moderne a généré des excités, je me permets de dire, et des conditionnés. On connaît la formule métro, boulot, dodo. Heureusement, il n'y a pas de métro à Saint-Nazaire. Mais on le voit, hein. Faut voir un peu le rythme de la vie des gens. Un tout petit enfant est déjà programmé comme un adulte. Je ne suis pas là pour jeter l'anathème. Mais quand on voit ce que l'on demande à un petit enfant, programmé dans l'emploi du temps des parents, je me dis quelquefois, ça va quand même beaucoup, ça va un petit peu loin. Mais il va être préparé pour sa vie à venir, ça c'est sa vie à venir. Le savoir bien vivre, le savoir bien manger, eh oui, passe par l'apprentissage du calme et de la patience, frères et sœurs. Eh oui, vous allez me dire, ça n'a rien de biblique ce que je suis en train de vous dire. Mais peut-être qu'il faut revenir à certains principes élémentaires pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Je vous propose de venir à ma table. Je vous invite, pas tous en même temps, mais je vous emmène, vous avez à choisir entre un plat qui a été préparé avec le temps ou je vous emmène à McDonald's. Si vous voulez aller plus vite, on peut le prendre directement dans la voiture. Hein. Ben, vous allez peut-être me dire, vous allez voir la différence au niveau du goût, parce que ça, c'est le temps qui fait les choses. Le temps est le garant de l'authenticité et de la qualité. Beaucoup de grandes et belles choses les plus appréciées sont faites avec le facteur temps. Regardez les vins, c'est pas pour rien, ou l'affinage des fromages, c'est pas pour rien qu'on les garde comme ça en disant ben voilà, c'est le millésime de telle année. C'est parce qu'il y a là un travail qui se fait. Les arts, certaines grandes technologies ou hautes technologies plutôt, eh bien sont faites avec le temps. Les choses sont préparées. La vie familiale se fait avec le temps. On peut pas faire tout à la va-vite, on peut pas bâcler un couple. Les choses qui sont préparées comme ça et qui sont faites trop rapidement, il y a des risques. Et tout ce que nous pouvons faire dans la vie, il faut que ça soit soumis à l'œuvre du temps. Notre vie spirituelle est un chef-d'œuvre de Dieu, c'est vrai, mais Dieu prend son temps avec nous pour nous façonner, pour nous peaufiner, pour nous perfectionner. Alors est-ce que nous lui laissons le temps? On dit, Seigneur, j'y arrive pas. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé à Dieu les moyens de faire avec nous ce que lui voudrait faire. De toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre, il faudra y passer. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prendre le repos, le temps, la réflexion, qui est indispensable. Vous savez, le grand secret de notre monde d'aujourd'hui, c'est de réapprendre à vivre. Et Paul, quand il dit, je cours vers le but, je fais une chose, pas 36, c'est qu'il avait certainement une grande leçon à nous donner. Alors, en délaissant les buts et les valeurs spirituelles auxquelles il était destiné, l'homme a laissé tomber sur lui la trappe qui lui ouvrait les champs illimités de l'éternité, et il s'est enfermé volontairement dans une cage dans laquelle il tourne en rond et s'énerve à parcourir en tous sens le plus vite possible. Nous vivons devant ce spectacle où l'homme finalement s'est renfermé dans une prison lui-même. Il a fermé la porte derrière lui et il veut en sortir. Et pour en sortir, il est un petit peu comme une abeille ou une guêpe qui tombe dans une bouteille. Vous savez comment elle fait? Alors à un moment donné, elle va s'épuiser à se cogner de tous les côtés ou dans une maison, hein, contre les vitres. Eh bien voilà l'homme. Et peut-être que quelquefois, eh bien c'est un peu ce qui se passe. Nous essayons de trouver des issues à nos problèmes, mais le problème, c'est que nous avons fermé la porte derrière nous. Et plus nous voulons aller vite, plus nous nous énervons et moins nous trouvons la solution. Alors à ce moment-là, cet homme-là n'en connaît pas l'issue. Il est prisonnier de ses sensations, et plus il va vite, plus il s'imagine s'en sortir. Parce qu'on dit toujours gagner du temps, mais non, on ne gagne pas du temps. on perd notre vie. Et il s'imagine solutionner ses problèmes, alors que finalement il s'enfonce encore davantage dans ses problèmes. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il y a cette parole merveilleuse dans la parole de Dieu, quand il nous est dit ceci, dans Ésaïe chapitre 30 et au verset 15, me semble-t-il, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dans la tranquillité et le repos que sera finalement votre salut. » C'est pas pour rien tout cela. Et c'est pour ça que nous parlions de la foi et que nous prions pour que nous ayons une plus grande foi. Et la foi passe par, eh bien, comme Marie, au pied de Jésus, nous attendons que le Seigneur nous parle. Quelquefois, nous entendons ce genre de prière, elle est tout à fait humaine et naturelle. « Seigneur, je t'ai prié, mais tu ne m'as pas encore répondu. Quoi » Quoi ? Seigneur, tu pourrais pas te presser à me répondre parce que moi j'ai besoin. Et le Seigneur sait très bien ce qu'il fait s'il nous fait attendre. Quelqu'un a dit ceci, c'est un pasteur qui a écrit plusieurs livres, donc j'ai pu que lire ces livres, c'est des livres très intéressants. C'était au moment de la dernière guerre mondiale, c'était dans les années 40. Il a dit ceci, je cite, parce que c'est une bonne réflexion sur la manière dont nous vivons et de la manière dont nous affolons dans cette vie, cette vie de frénésie. Il dit ceci, il disait ça il y a 60 ans. Il dit, l'avenir ne nous apportera que des vitesses. Il avait bien dit, parce qu'il est mort depuis certainement des décennies. L'avenir ne nous apportera que des vitesses. Plus le monde ira vite et loin, plus il décroîtra dans sa vie intérieure. Tout va devenir extérieur, superficiel, et c'est ce que nous voyons dans notre génération. Vivre ne permettra plus de penser. Et ça, c'est bien ce que nous constatons. Vous voyez que les gens pensent. Aussi, intellectuellement, sur le plan peut-être philosophique, dans certains domaines, mais vous savez, quand on voit un petit peu l'aspect, la vitesse, la course folle des gens, on se demande s'ils pensent quelque part. Donc, vivre ne permettra plus de penser. « On vivra comme des éphémères, écrit-il. La marionnette humaine fera ses trois petits tours à une allure vertigineuse et elle mourra avant d'avoir pris conscience d'elle-même. » C'est bien la tristesse que nous constatons de notre monde d'aujourd'hui. Oui, la marionnette, les marionnettes que sont les hommes, vont mourir avant d'avoir pris conscience d'elles-mêmes. Hier, nous sommes sortis dans la rue pour aller distribuer les prospectus et chanter. Je ne peux pas lire ce qu'il y a dans les cœurs, mais j'ai vu ce qu'il y avait sur les visages. Très souvent, et mes amis qui étaient avec moi l'ont constaté, les visages souvent fermés. Ouais, une tristesse profonde. L'homme va mourir avant d'avoir pris conscience pourquoi il est homme et pourquoi il est sur cette terre. Et ça, c'est dramatique. Moi, quand je vois ça, ça me donne envie de pleurer. C'est une grâce que nous soyons au Seigneur et que nous le connaissions, parce que nous faisions partie de ce monde-là auparavant. L'homme machine est en train de supplanter l'homme personnalité. Dieu nous a créés pour que nous soyons des personnes et non pas des machines et non pas des numéros, non pas une dent dans un rouage de ce monde qui tourne et qui tourne de plus en plus vite, dans la conscience duquel s'efface progressivement à chaque accélération son âme, les réalités morales, l'éternité et Dieu. Et c'est pour ça que nous arrivons dans des temps que nous disons si difficiles pour évangéliser. Parce que nous voyons que l'homme est pris dans un engrenage, dans une folie, dans une frénésie, dans une accélération dont il ne maîtrise absolument rien. Et en plus, accentué par le refus de Dieu, alors on voit que finalement, on se dit, mais les gens n'ont plus de moralité, les gens n'ont plus de conscience morale, les gens n'ont même plus l'esprit, cette notion de Dieu, ils n'ont même plus le sens de l'éthique, de certaines choses qui pourtant habitaient le cœur de l'homme, et qui étaient quand même, malgré tout, quoi qu'on en dise, entretenues quand même par la religiosité, ou la religion. Mais maintenant, plus rien du tout. Vous avez vu la génération qui arrive, nos enfants, ils ne connaissent même pas le nom de Dieu. Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est terrible, parce qu'on a abandonné dans l'éducation générale, l'éducation familiale, eh bien cette notion. Et on leur dit, il faut aller de plus en plus vite. Vous savez qu'on fait le tour du monde maintenant en 30 et quelques heures. Ouais. Et on le faisait encore un peu plus vite avant, quand on prenait le Concorde. Enfin là maintenant c'est terminé. Ça va trop vite. Mais c'est pour vous dire que nous vivons dans un monde et c'est assez étonnant. Vite, vite, toujours plus vite. Et Paul dit, je cours. Parce que je reviens toujours à l'idée que nous avons devant les yeux. Il dit « je cours ». La vitesse, la compétition, la fuite, c'est les premiers mots que nous avons cités tout à l'heure en ouvrant cette page. À défaut d'un but valable et éternel, où l'homme peut-il aller alors à ce moment-là? Sans le savoir, il est entraîné par une force irrésistible dans une course à la mort, parce que l'issue, c'est la mort. Quand on voit cette mortalité sur les routes, je me dis, à travers ce que nous constatons autour de nous, des vitesses excessives, et puis les motos, par exemple. Oh là là, moi, ça me fait peur. Moi, j'ai un vélo... Ça va, c'est déjà assez rapide. Il faut que je pédale pour aller plus vite. Mais toujours est-il, quand je vois ces choses, quand je vois ce comportement, mais je dis, quelquefois, je le dis à mon époux, je me dis, mais il court où? Il court vers le cimetière. À Slalomé, j'étais sur l'autoroute cette semaine, et je voyais là, finalement, eh bien, ces motos qui passaient de droite et de gauche, qui se faufilaient, mais à une vitesse vertigineuse. Je me dis, mais c'est fou! Mais qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il a pris aux gens de vivre comme ça? Il n'y a aucune réflexion, même pas la conscience de leur propre vie, de la sécurité ou de la garantie de leur propre vie. Alors, il est utile d'arrêter la course, un instant pour réfléchir, faire le bilan, changer de direction et courir dans le bon sens et vers la bonne destination. Comme Paul le nomme, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, parce que Jésus a dit qu'il était le chemin. Mes frères et sœurs, moi je vous dis ça ce matin parce que j'ai à cœur de le dire. On n'est pas à Paris, on n'est pas dans les grandes métropoles, on est quand même dans une ville qui suit aussi le mouvement malgré tout. Mais ce que je voudrais de vous dire de la part de Dieu, si vous le pouvez, je dis bien si vous le pouvez, ralentissez le rythme. Parce que ce rythme-là, c'est pas le rythme de Dieu. Dans la Bible, il nous est parlé du train de ce monde. Le train, voyez ? Ça nous laisse penser qu'il y a là quelque chose qui court, et celui qui fait courir les gens, eh bien, c'est pas celui que nous adorons et celui que nous prions. Alors, je terminerai simplement par une petite conclusion, simplement pour dire, courir, oui, nous sommes appelés à courir pour atteindre pour remporter le but, la vocation céleste, à travers, eh bien, le salut en Jésus-Christ. Alors, courir, oui, d'accord. Courir, oui, et s'en aller en paix, comme cet homme de l'évangile qui s'appelle Siméon, qui avait près de 80 ans, avec dans les yeux la vision du salut. Quand il tient ce petit enfant, et vous savez que ce n'est pas n'importe quel petit enfant, c'était Jésus, dans les portes du temple, et qu'il se tourne vers Dieu en disant « Seigneur, maintenant tu laisses aller ton serviteur parce que mes yeux ont vu ton salut. » Mes frères et mes sœurs, nous sommes sauvés, mais gardons le salut que Dieu nous a donné jusqu'au bout. Gardons-le. Et ayons ce salut non pas seulement dans nos yeux, mais également au fond de notre cœur. Et ne nous laissons pas submerger, ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas emporter par tout ce que le monde peut nous proposer, parce que on n'a pas fini, hein. Je peux vous dire que si on en veut, on peut manger, hein, autant qu'on veut. Et vous savez ce qui est arrivé l'avidité et la convoitise des Israélites dans le désert avec les cailles, hein. Bah, les cailles, ils en ont mangé. À un moment donné, ils ont dit que ça leur ressortait par les yeux, par les oreilles et partout, hein. Et si nous voulons goûter au monde intensément, mais le monde va nous empoisonner. Et si nous voulons marcher au rythme du monde, eh bien nous serons disqualifiés dans notre vie spirituelle. On ne perdra peut-être pas notre salut pour certains, mais je veux dire qu'on sera disqualifiés. Et peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui sont disqualifiés aujourd'hui, que nous ne voyons plus, parce que finalement, eh bien, ils sont partis dans un autre monde. Ils croient encore au Seigneur. Mais de leur vie spirituelle, que reste-t-il ? Alors courir, oui, comme le paralytique auquel Jésus a dit « Lève-toi et marche !» Cet homme qui ne pouvait pas marcher, parce que cet homme a été libéré de toutes ses infirmités et ses paralysies morales et spirituelles, et nous avons besoin d'être libérés. Lève-toi et marche, mais libère-toi de ton passé, de toutes ces paralysies, de toutes ces choses qui sont là, autant de fardeaux et qui t'empêchent de marcher. Courir, oui, comme Bartimée l'aveugle. Lui, il n'était pas paralysé, mais il était aveugle. Il avait la cécité dans ses yeux. Et il s'est levé d'un bond. Et quand il a entendu Jésus, à ce moment-là, il est accouru vers lui. Pour aller plus vite, vous savez ce qu'il a fait? Il a rejeté son manteau derrière lui. Et nous avons besoin aussi de rejeter nos manteaux. Ces chapes de plomb qui pèsent dans notre vie. Si nous voulons courir, nous allons courir, mais il faut courir libre. Courir, oui, mais désormais avec Jésus. et avec joie. Avec joie. Si nous courons et que je dise « Ah, je suis chrétien, mais que j'ai un air, une tristesse dans ma vie, que j'ai tellement de fardeaux, tellement de pesanteur », alors à ce moment-là, comment voulez-vous ? Comment pouvons-nous donner envie aux autres ? Je cours avec Jésus, je marche avec Jésus, mais je marche avec joie. J'ai envie d'avoir le sourire. Parce que si j'ai envie de sourire, eh bien, je vais sourire. Mais si je veux me fermer à moi-même, à ce moment-là, eh bien, vous savez que quand on sourit, c'est quelque chose de formidable. Les muscles du sourire, ça s'appelle les zygomatiques. Hein? Et ça fait travailler je ne sais pas combien de muscles. Alors, quand vous souriez, enfin, non, faut pas que je me conditionne quand même. Je vous souris, mais là je le fais naturellement. Hein. Eh bien, c'est un exercice très profitable dans notre vie. Souriez, mes frères et mes sœurs. Pas une publicité pour le dentifrice, hein, mais souriez. Et c'est vrai, ayez le sourire. Parce que ça monte du cœur et vous donnerez envie aux autres, finalement. Et on dira, mais qui sont ces gens ? En entreprise, dans la société, dans vos relations sociales. Mais qui sont ces gens qui ont cette joie dans leur cœur ? Parce que vous avez appris à vivre. Et pour bien vivre, il faut vivre au rythme du Seigneur, avec des buts bien précis. Alors courir, oui, d'accord, Seigneur. Et j'entendrai cette parole du Seigneur qui me dit et qui me redit chaque jour, « Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. » Et vous savez qu'avec le Seigneur, il ne courait jamais. Il marchait. Parce que quelquefois, on veut dépasser un petit peu Dieu. On dit, « Seigneur, d'accord, je te suis, mais tu permets que je marche devant toi ?» Seigneur, tu viens, tu me suis. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non, non, c'est le Seigneur en premier et moi derrière. Avec cette merveilleuse promesse qui étreint et qui réchauffe mon cœur ce matin. Cette promesse d'accompagnement pour tous les enfants de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 40, et vous connaissez naturellement cette parole, je la cite. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent. » Et ne se fatigue point, mes frères et mes sœurs, de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur. Je souhaite que ce message vous ait fait du bien, que Dieu vous aide et que le Saint-Esprit vous amène à comprendre que finalement nous n'avons pas à marcher au rythme de ce monde, mais que nous avons à marcher au rythme de Dieu, au tempo de Dieu, pour que nous ayons une vie qui puisse le glorifier. Parce que, comme Paul dit, je cours, eh bien, il courait vers un but qu'il avait devant les yeux et ne perdons pas le but. Le Seigneur va nous renouveler dans nos forces et nous irons jusqu'au bout. Avec sa grâce, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, tu as parlé à ton peuple, tu m'as parlé aussi. Parce que c'est vrai, Seigneur, nous misons, parce que nous sommes appelés par toi, nous sommes des rachetés. Nous misons, Seigneur, non pas sur l'immédiat, mais nous misons sur le permanent. Nous ne misons pas, Seigneur, sur la quantité, mais nous misons sur la qualité. Alors, Seigneur, tu vois ton Église, le corps de Christ, confronté au monde dans lequel nous sommes, bien indépendamment aussi de notre volonté. Mais, Seigneur, tu veux nous apprendre, Père éternel, à avoir une vie qui soit saine et une vie qui soit sainte. Tu veux nous apprendre, Père éternel, à vivre avec les indications du Saint-Esprit dans nos cœurs et au fond de nous-mêmes. Et ainsi, Seigneur, à faire le tri, Seigneur. Tu vois, parfois, Seigneur, ces choses du passé, notre présent, Seigneur, parfois médiocre, et puis nos craintes de l'avenir. Mais, Seigneur, ce que je vis aujourd'hui, je le vis en cet instant, tout simplement. Je te bénis pour hier. Je te remercie pour un avenir que je ne connais pas, mais je te bénis pour aujourd'hui, Seigneur. Et pourtant, je peux dire, je cours vers le but. Parce que le but, ce n'est pas ceci ou cela, le but, c'est connaître Jésus-Christ. C'est connaître ta grâce. C'est connaître, Seigneur, en effet, Père éternel, cet héritage que tu m'as réservé, que tu nous as réservé dans les lieux célestes. Voilé encore, mais néanmoins, Seigneur, qui me sera révélé pleinement et totalement. Tu bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Donne-leur, Père éternel, après avoir entendu cette parole, non pas la parole d'un homme, mais le message du Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, maintenant dans ce temps de réflexion, de dire, Seigneur, c'est vrai qu'il y a bien des choses dans ma vie qui sont inutiles, des choses qui sont véritablement, Seigneur, eh bien des pièges, mais donne-moi ta grâce. Je me confie en toi. Renouvelle-moi dans ma foi, Seigneur, parce que c'est simplement par ma foi, par la foi que j'ai en toi, que je pourrai triompher de toutes ces choses, de ma nature, de mes impulsivités, de mon impétuosité, de mes fièvres, de tous mes emportements, de toutes ces choses, Seigneur, fébriles, qui me poussent à faire, à faire, à faire, et peut-être justement pour oublier que je dois penser. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, révèle-toi et manifeste-toi. Visite ton peuple, ici et ailleurs. Fais-nous grâce dans des temps, Seigneur, de folie, des temps de frénésie. Alors nous pourrons dire, je cours, oui, Seigneur, je cours. Mais je cours, Seigneur, parce que tu marches devant moi. Et c'est toi qui vas véritablement donner le bon rythme à ma vie. Et merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen.